Vous écoutez SC Squatel. Vous écoutez SC Squatel sur les ondes de CKIA. Salut Evelyne.
Salut Tiffaine.
Salut Marie.
Salut Tiffaine.
Alors ce soir, on va commencer avec une petite nouvelle dont tu vas nous parler, Evelyne.
Oui, sur le lobby canadien contre le droit à l'avortement.
D'accord. Ensuite, on reçoit des filles du groupe Montréal Sisterhood, dont on vous parlera plus en détail un peu plus tard. Après ça, je vais vous parler de prison et d'art fait par des femmes sur le sujet des prisons ou par des femmes incarcérées. Et puis ensuite, on va terminer avec le calendrier militant, comme d'habitude. Et le tout sera ponctué de super choix musicaux que tu as fait ce soir, Evelyne. On commence avec quoi?
On commence avec une chanson du groupe canadien de Brat Attack. Là, c'est des gars qui chantent, mais je trouvais que le thème était particulièrement approprié par rapport à la nouvelle dont je vais vous parler tout à l'heure. Ça s'appelle « Hey Harper, you anti-choice homophobe, fuck you, die, die, die ».
C'est parti. Ouais, t'es très révélateur.
Sur les ondes de CKIA FM, c'était le groupe Brat Attack. Vous écoutez Ainsi Squatel, votre magazine féministe et libertaire favori. Attachez votre tuque parce que c'est ce genre de musique-là qui va vous attendre durant cette émission. Donc, je voulais commencer en nouvelle, en fait, parce que j'ai lu un communiqué de la Coalition pour le droit à l'avortement au Canada aujourd'hui, communiqué que j'ai trouvé sur le réseau NetFemmes. C'est un communiqué qui dénonce le lobby canadien de lutte contre le droit à l'avortement et qui affirme que ce lobby-là a une influence très croissante et trop significative sur le gouvernement conservateur. Donc, la Coalition dénonce ce lobby-là et considère que ça pose un grave danger pour les droits à l'avortement et pour les droits des femmes en général. Une citation qu'il y a dans le communiqué, c'est « Cette semaine, nous avons appris, comme nous le soupçonnions depuis longtemps, que c'était le mouvement anti-choix qui était largement responsable de la décision du gouvernement conservateur l'an dernier de ne pas subventionner la Fédération internationale pour le planning des naissances. » C'est une citation de Joyce Arthur, directrice générale de la Coalition. En effet, plus tôt ce mois-ci, le député conservateur Brad Trust avait déclaré à la Saskatchewan Pro-Life Association, un regroupement anti-choix, comme vous en doutez, que les pétitions de leur mouvement avaient été très, très utiles dans le retrait de la subvention jusque-là accordée à la Fédération. Donc, la Fédération qui fournit des services de santé, y compris la planification familiale et l'avortement dans les pays en voie de développement. On avait eu l'occasion d'en parler. Donc, cette fédération-là a déposé une nouvelle demande de fonds qui risque malheureusement d'être rejetée, même si aucun argent n'est requis directement pour les services d'avortement. Puisqu'on est en contexte d'élection, la Coalition pour le droit à l'avortement au Canada a rendu publique une liste de députés anti-choix que vous pouvez consulter sur Internet, notamment sur le site xrl.us/bju75m.
Mais cadence pratique!
Cadence pratique! J'imagine que si vous tapez Coalition pour le droit à l'avortement au Canada, vous allez trouver cette liste de députés-là. Mais dans tous les cas, c'est un sujet qui dont on se tient au courant ici à Insiskwatel, parce que, bon, voilà, on connaît les tendances de nos chers députés, de notre cher gouvernement conservateur. Donc, c'était ma petite nouvelle. Et en attendant les filles du Montreal Sisterhood, j'avais envie qu'on écoute une chanson du groupe Jeunesse Apatride qui s'appelle Terre d'accueil, point d'interrogation. Malheureusement, mais...
Heureusement.
Heureusement.
Do it!
les ondes de CKIA FM. C'était Jeunesse Apatride avec la pièce Terre d'accueil. Et juste avant, on a eu droit à une autre pièce de Brat Attack qui s'appelait End the Occupation. On poursuit notre émission en chronique avec Tiffaine qui nous a préparé d'abord un micro sur les prisonniers politiques.
Oui, c'est ça. Donc, j'ai pensé de parler de ça parce que en ce moment même, il y a plusieurs événements qui visent à faire libérer deux prisonniers politiques qui sont enfermés en cellule d'isolement depuis 39 ans dans la prison d'Angola, qui est en Louisiane, aux États-Unis. Puis bon, c'est mon petit dada, tu sais, les événements qui se passent à la Nouvelle-Orléans. Donc, je me suis dit que j'allais vous en parler un peu. Dans le fond, rapidement, les Angola 3, qui sont trois hommes là, qui sont connus sous ce nom-là depuis une quinzaine d'années parce que c'est trois hommes emprisonnés injustement en solitaire depuis presque 40 ans maintenant. Un des trois a été libéré en 2001, mais les deux autres continuent d'être dans une cellule de 6 pieds par 9 pieds depuis donc presque 40 ans. C'est ce qui est considéré comme les deux personnes qui ont passé le plus de temps dans une cellule aussi petite dans l'histoire des États-Unis. Et puis, dans le fond, il y a une grosse mobilisation autour de ça parce qu'ils sont en solitaire pour aucun motif valable outre leur conviction politique. Donc, ces deux personnes-là, c'était des organisateurs des Black Panthers qui ont commencé en 1971, qui ont ouvert une cellule des Black Panthers dans la prison. Eux étaient déjà emprisonnés pour différents crimes et puis donc, ils ont commencé à se mobiliser de l'intérieur de la prison pour mettre fin à, ben, ou en tout cas, améliorer la situation de violence extrême qui avait lieu dans la prison. Puis donc, c'était une prison qui était la plus grosse à ce moment-là de tous les États-Unis et qui était aussi considérée comme étant la plus violente. Il y avait des meurtres toutes les semaines, une institution du viol qui était assez sordide. Donc, vraiment, c'était très, très intense comme situation. Puis, c'était d'autant plus problématique que c'est une prison qui est située sur une ancienne plantation, sur le lieu d'une ancienne plantation. Puis, depuis 150 ans, depuis l'abolition de l'esclavage, la situation pour les hommes noirs, parce qu'ils sont noirs à 80% dans cette prison-là, a pas énormément changé. Donc, c'est encore des hommes majoritairement noirs, parce que généralement, les hommes blancs travaillent dans des emplois plutôt à l'intérieur. Donc, c'est des hommes noirs qui sont à l'extérieur dans les champs de coton et de canne à sucre et qui se font surveiller par des gardes blancs dans le sud des États-Unis. Donc, c'est un petit peu sordide, comme je le disais. Puis, dans le fond, il y a eu plusieurs projets d'art qui ont été faits autour de ces trois hommes-là. Il y a deux films et un projet d'art participatif, social, je ne sais trop comment l'appeler, qui ont été menés par des femmes ou par des groupes qui incluaient des femmes et puis qui sont super intéressants. Donc, d'abord, un petit mot sur un film qui s'appelle Angola 3, Black Panthers and the Last Slave Plantation, qui est disponible sur YouTube d'une qualité qui est un petit peu médiocre, mais je pense que ça vaut quand même vraiment la peine de regarder ce film-là parce que c'est vraiment intéressant et puis qui explique bien comment, après l'abolition officielle de l'esclavage, ben la prison d'Angola a continué à servir de lieu où les hommes d'origine africaine-américaine ou afro-américaine, pardon, étaient réduits à une situation d'esclavage et de violence vraiment extrême. Et puis, donc, les trois hommes là qui sont devenus les Angola 3 ont organisé des groupes de prisonniers et tenté de mettre fin à cette situation-là. Et puis, ils ont été, donc, en 72, environ un an après avoir mis sur pied la seule cellule des Black Panthers officiellement dans une prison des États-Unis. Ils ont été reconnus coupables d'un crime qu'ils n'avaient pas commis, puis ça a été prouvé clairement après coup. Donc, coupables d'un meurtre d'un des gardes de prison qui avait été poignardé à de multiples reprises. Et puis, ça a été prouvé après que le témoin principal avait été payé et tout ça. Donc, c'est une histoire assez terrible. Pourtant, donc, ces trois hommes-là ont passé des années et des années en solitaire. Je vous conseille ce film-là, je vous le répète, là, c'était Angola 3, Black Panthers and the Last Slave Plantation, qui est un film fait par Scott Crow, Anne Harkness et Jimmy O'Halligan. Bon, j'espère que je me sacque pas trop.
Est-ce que c'est un film qui est récent?
C'est un film de 2000... 2004, je crois, mais je suis plus certaine de l'année, mais ça a été fait dans les 10 dernières années. Et puis, il explique, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il explique aussi super bien, quoique rapidement, la répression qu'il y avait contre les Black Panthers puis d'autres mouvements de libération aux États-Unis, donc le American Indian Movement, puis des groupes comme ça. Puis, c'est vraiment intéressant. C'est un film assez court, là, je pense 50 minutes, mais qui fait vraiment le tour de beaucoup de questions super intéressantes sur le racisme aux États-Unis. Ensuite, l'autre petit film qui est disponible en ligne puis qui gratuitement, qui dure environ 15 minutes puis qui est disponible en super bonne qualité et que je vous conseille fortement, ça s'appelle Letters to Angola. Et puis, ça a été fait par une étudiante britannique qui a fait ça dans le cadre d'un projet de fin d'études, puis dans le fond, qui a écouté sa relation avec un des trois Angola 3 qui s'appelle Herman Wallace et qui, dans le fond, elle a commencé à lui écrire, je sais pas exactement pourquoi, mais bref, elle a entretenu une correspondance avec cet homme-là pendant des années, et puis elle a fait un film, donc, qui est basé sur les lettres qui se sont échangées pendant plusieurs années, puis où elle lui pose plein de questions vraiment intéressantes, puis en tout cas, je pense que c'est vraiment un film à voir. Il est disponible sur Vimeo, puis dans le fond, pour trouver le lien, bien, je vous invite à visiter le site qui explique bien les mobilisations qu'il y a pour ces trois hommes-là. Là, entre autres, là, je pense que c'est la semaine prochaine. Il y a une espèce de... Ah non, ça vient de passer, pardon, c'était cette semaine. Donc, c'est des actions pour souligner les 39 ans d'emprisonnement et puis où ils ont fait une vigile de 39 heures avec plein d'activités et puis des gens qui se relayaient toutes les heures pour passer une heure dans une cellule de la taille de la cellule de ces hommes-là. Et puis, donc, c'est Angola 3 Action. Donc, Angola 3 en chiffres, là, action.org. Et puis, vous devriez trouver, là. Puis, il y a un lien vers le film Letters to Angola, qui est vraiment intéressant. Et puis, où on entend des trucs qui sont juste vraiment fantastiques, là. Je pense que question mobilisation, là, genre, le gars qui est enfermé dans, en tout cas, au moment du film, depuis 36 ans, et puis qui dit, ben tout ce qu'il nous demande pour sortir des cellules d'isolement, c'est de renoncer à nos croyances politiques, mais ça va jamais arriver, tu sais. Puis, ils sont juste vraiment intenses, là. C'est vraiment intéressant. Et puis l'autre projet là dont on peut voir un petit peu qu'on peut voir sur ce site-là, c'est un projet par une artiste qui s'appelle Jackie Sommel, qui avait reçu un prix en 2001 pour un projet qu'elle avait fait qui dénonçait les attaques du gouvernement Bush contre la liberté de reproduction des femmes, qui est une artiste activiste vraiment intéressante, puis qui a elle aussi correspond. qui correspond depuis des années avec Herman Wallace, puis qui a fait un projet avec lui où elle lui demandait d'imaginer sa maison de rêve. En tout cas, je vous laisse visiter le site web, donc le lien encore là est sur le site du angola3action.org. Et pendant ce temps-là, au Québec, je sais pas si
on met toute une petite chanson pour digérer puis continuer peut-être après sur le thème ouais. Du prison.
Ben, on va écouter la chanson que tu avais trouvée finalement, Tiffen, qui s'appelle Rebel Girl. Est-ce que tu te rappelles du nom de l'artiste?
Je crois que c'est Hazel Dickens, si je ne me trompe pas, qui parle des femmes dans le mouvement des travailleurs et travailleuses industrielles, WWI, je sais pas.
Mais c'est parfait, en attendant le 1er mai, c'est bon.
Ouais,
merci. Exact.
Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA FM et vous écoutez Ainsi squat-t-elle. Donc, c'était Hazel Dickens, je crois, si je me souviens bien. Et puis, c'était une chanson qui s'appelle The Rebel Girl. Donc, on parlait avant cette super chanson de prison et puis de prisonniers politiques dans le sud des États-Unis. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a aussi des prisonniers et des prisonnières au Québec. Et puis, d'ailleurs, il y a une exposition qui va commencer à partir du 27 mai et jusqu'au 16 juin à la galerie Eastern Block à Montréal, où, dans le fond, c'est une cinéaste et actrice qui s'appelle Carole Laure et une artiste interdisciplinaire qui s'appelle Deborah Newmark, qui sont les porte-parole d'un événement qui s'appelle Agir, l'art des femmes en prison. Et puis, donc, c'est un projet qui pendant 2 ans, ils ont mis ensemble l'art de 49 femmes incarcérées. Et puis, donc, il y a 8 artistes multidisciplinaires qui les ont soutenus dans ce travail-là. Et puis, c'est une exposition qui comprend 35 œuvres en art visuel, en cinéma, en musique et en danse. Donc, ça devrait être bien intéressant. Là, il y a plus de détails sur leur page Facebook qui s'appelle « Agir, art des femmes en prison ». Et puis, donc, ça aura lieu entre mai et juin à Montréal.
Parfait. Puis, il y a des expositions et des conférences aussi, il me semble, sur... Ben, en tout cas, moi, c'est ça que je me rappelle que j'avais vu l'information. Là, j'aurais pas les informations précises à donner, mais je sais qu'il y avait une conférence sur... justement questionner la nécessité des prisons là, puis voir des pratiques alternatives. Donc ça, c'est la dernière. Il y en avait une sur justement l'art des femmes puis dans les prisons, tout ça. Donc je pense que ça mêle aussi la réflexion à l'art là. Enfin, même si l'art est de la réflexion quand même. Voilà.
Bon, ben on va continuer avec la prochaine pièce musicale.
Oui, un choix d'Evelyne, ça s'appelle Beyond Pink. La chanson, c'est Workout to Kill.
Tenez bien vos trucs encore. Yeah!
êtes toujours sur les ondes de CKIA FM à l'émission Ainsi Squat-t-elle. On a nos invités qui s'en viennent, mais on va attendre un petit moment encore. Puis, on peut présenter en tout cas l'activité qu'elles vont faire à la JT ce soir. Donc, c'est une conférence de Montréal Sisterhood. C'est une conférence sur le thème de la présence des femmes dans le mouvement antifasciste radical au Québec. Donc, c'est présenté comme suit. Le mouvement antifasciste radical est souvent perçu comme un mouvement de confrontation, violent et par association très masculin. Or, depuis longtemps, des femmes aussi s'impliquent contre le fascisme, que l'on pense au mouvement de résistance dans les années 1930 jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelle place le mouvement antifasciste radical, qui se proclame souvent contre toute forme d'oppression, accorde-t-il aux femmes? Quel rôle les femmes occupent-elles dans ces groupes? Y vivent-elles de la discrimination? Quels problèmes rencontrent-elles spécifiquement à leur genre dans le cadre de leur lutte? Donc, ce sont des questions qu'un tout nouveau groupe féministe, le Montréal Sisterhood, s'est penché lors d'une conférence donnée le 5 mars dernier à Montréal. Et elles viendront donc ce soir, enfin, elles sont en train de venir, là on le sait, donc nous faire part des constats ressortis lors de ces événements et animer une discussion sur les enjeux actuels touchant aux femmes dans ce mouvement. Donc, on va continuer avec une musique et puis on revient après, normalement, avec nos invités.
Transformé en poignardé, sans fierté pour lutter. Je pense plus à mes ennemis et aux promesses de faux bois que je pense à me bagarrer en compagnie de mes alliés.
Trop de fierté pour notre nationalité, oh, oh.
Pour notre nationalité.
Trop de fierté envers mon personnalité, oh, oh.
Envers notre unité.
Incapable de s'estimer à travers différents peuples, complexes d'infériorités, fiers cachés parmi les siens. Incapable de se démarquer d'une société multiethnique. Je préfère les couleuvrés qu'on sache que je suis pas éduqué.
Trop de fierté pour notre nationalité, oh, oh.
Pour notre nationalité.
Trop de fierté envers nos personnalités, oh, oh.
Mère d'une famille
ondes de CKIA FM. Vous êtes à l'écoute d'Ainsi Squatel et nos invités du Montreal Sisterhood sont arrivés. Bonjour Chloé, bonjour Virginie.
Allô. Allô.
Alors, brièvement, on a présenté votre groupe comme étant un groupe sur les femmes dans le mouvement antifasciste et vous allez animer une discussion à ce sujet-là au Mardi de l'Anarchie, mais c'est écrit dans la description que vous êtes un nouveau groupe. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de l'émergence de votre groupe ou de votre collectif.
En fait, le Montréal Sisterhood, on est né d'un constat qu'on a fait communément, c'est-à-dire que on réalise que même si on a beaucoup d'expérience politique alentour des scènes antifascistes, anticapitalistes, on réalise qu'on a assimilé dans nos scènes des comportements, des systèmes d'oppression, soit le capitalisme, on a assimilé beaucoup de comportements, veut pas, donc on réalise qu'il y a quand même encore beaucoup de sexisme dans notre scène. Fait que dans le fond, c'était ça. C'est en réaction à ça, surtout, qu'on a vu qu'il y avait une urgence de se former.
Peut-être pour préciser un petit peu, quand Virginie parle de scène, en fait, c'est qu'on est des filles qui sont issues des mouvements contre-culturels, surtout punk, skin, hardcore, reggae, hip-hop. Puis dans le fond, c'est à travers ces scènes-là qui souvent projettent un discours qui est assez progressiste, souvent pro-féministe, anti-homophobie, anti-raciste. Malheureusement, comme Virginie l'a dit, ça se concrétise peu, puis on se rend compte que dans la pratique, c'est pas tout le temps le cas, malheureusement. Fait qu'à partir de ce constat-là, on s'est dit, ben nous, les filles qui traînent dans ces scènes-là, dans ce milieu-là, qui sont là aussi pour les valeurs d'extrême gauche puis que les scènes véhiculent, bon, on va se mettre ensemble, on va essayer de changer la situation dans nos scènes, parce que c'est d'abord un nos milieux de vie, tu sais. Nous, on n'est pas vraiment des universitaires, fait qu'on n'est pas, tu sais, si ça, nous, notre milieu de vie, c'est pas mal la scène contre-culturelle dans laquelle on se tient, puis on a décidé de faire notre action principalement sur ce milieu-là en premier.
Puis, ça ressemble à quoi vos activités jusqu'à maintenant? Vous vous rassemblez pour discuter de ce que vous vivez dans cette scène-là, vous organisez des événements, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à à présent? On a parlé de la conférence à Montréal, il y a la conférence ce soir.
C'est assez large, en fait. Entre nous, premièrement, pour se politiser, c'est sûr qu'on fait on fait souvent des discussions, on fait des cours d'autodéfense, tout ça. Mais pour politiser les gens autour de nous, pour les radicaliser, on essaye de favoriser la discussion. Donc, on participe beaucoup, justement, on fait des conférences, on essaye de rencontrer les autres groupes. Donc, on veut faire des soirées films, on veut participer à des manifestations, organiser des manifestations. Donc ça, c'est l'argent.
On organise aussi des concerts parce que veut pas la scène contre-culturelle, c'est ça. Fait que c'est un lieu qui est rassembleur où les gens viennent peut-être pour la musique. Puis après ça, ben c'est souvent des groupes qui ont des discours politiques qu'on invite. Donc il y a cette possibilité-là. C'est ça. Dans le fond, nous, notre but, c'est vraiment de travailler dans la scène contre-culturelle, mais aussi en alliance avec le mouvement féministe général, ben comme plus global. C'est pour ça que, par exemple, il y avait une manif pro-choix qui était organisée à Montréal en réaction à une manif pro-vie. Fait qu'on est allé les
40 jours pour la vie de Québec Vie, en fait.
Oui, c'est ça. Fait qu'on est allé là, puis on a traîné une gang de monde de la contre-culture avec nous qui peut-être serait pas venu s'il y avait pas des filles qu'ils avaient traînées. Fait que ça peut être un des trucs cool qu'on a fait dernièrement aussi.
Puis ce qu'on essaie de faire, que je considère que c'est assez... c'est assez différent, puis c'est important pour nous. C'est pas juste d'entendre un message de la part des femmes. C'est sûr qu'on veut laisser la parole plus aux femmes. Mais exemple, dans les conférences, on va essayer qu'il y ait aussi des hommes qui parlent, qui se réfléchissent par rapport eux-mêmes à l'implication, la place que les hommes laissent aux femmes dans les luttes et où comment ils peuvent changer leur comportement, tout ça, pour que ça les rejoigne plus. C'est comme pour vu que nous on vise l'égalité hommes-femmes. Je pense que ça serait un peu se fermer les yeux si on voulait pas écouter leur discours, si on n'était pas ouverte à ça. Donc, je pense que ça, pour nous, c'est important d'entendre, de laisser la place aux hommes dans les luttes féministes aussi.
Puis dans votre collectif, c'est quand même un collectif non mixte femmes, hein?
Mm-hmm. Ouais, parce qu'en fait, on pense que le premier point, pour pouvoir faire une action, c'est de réaliser qu'on vit une oppression commune. Puis ça, l'oppression commune que vivent les femmes, c'est juste nous qui pouvons en parler. Fait que c'est sûr qu'à la base, c'était vraiment important d'être un collectif non mixte. C'est sûr que les actions, généralement, sont mixtes, mais pour qu'au moins, on puisse ensemble vraiment parler de nos réalités sans complexe, sans tabou, on trouvait ça vraiment pertinent, la non-mixité.
Donc, vous vous définissez vraiment comme féministe.
Oui.
Oui.
Et dans le fond, vous parlez un peu des comportements sexistes ou de domination qui sont intégrés dans nos milieux ou dans nos cultures ou qu'on intègre nous-mêmes comme comportement. Mais je me demandais un peu justement comment ça se traduit dans vos scènes contre-culturelles ou plutôt est-ce que vous essayez de changer juste le rapport aux femmes, des militants dans cette contre-culture-là ou si vous essayez de changer cette contre-culture-là, en général, là, dans son rapport qui peut être sexiste ou macho au monde, là, je sais pas trop comment m'exprimer.
Ben moi, grosso modo, ce que je dis par rapport à ça, c'est qu'en fait, oui, il y a le sexisme, ça, c'est quelque chose, sauf que pour moi, c'est important de pas juste lutter contre le sexisme, mais d'essayer de regarder dans quoi ça s'inscrit, qui est le système patriarcal, puis vraiment de remettre ça comme sur la table, parce qu'on peut pas juste dire « Ah, oh, on veut juste abolir les préjugés » ou « C'est pas juste une question de discours, c'est pas juste une question idéologique, c'est aussi une question structurelle, ben, en tout cas, pour moi, qui est le patriarcat, puis c'est important vraiment de lutter à ce front-là. Fait que on veut pas nécessairement changer la contre-culture, puis on veut pas non plus seulement juste abolir les préjugés puis être plus intégré, on veut vraiment essayer d'abolir le patriarcat puis ses relents dans nos vies.
C'est toute une mission. Puis à date, dans vos conférences, tout ça, quelle réception vous avez comme collectif? Est-ce que les autres groupes mixtes dans lesquels vous militez ou les autres milieux, comment ils trouvent ça, qu'il y ait des filles qui trouvent que ça vaut vraiment la peine de se réunir en non-mixte puis de réfléchir au sexisme dans l'ensemble des luttes contre les systèmes de domination? Quel genre de réception vous avez? Les gens sont contents, c'est cohérent, dans le fond, c'est logique que ça existe.
Ben en fait, je dirais que souvent, mettons, les femmes du milieu, ben ou pas nécessairement du milieu, mais du mouvement féministe, à Montréal, j'ai l'impression qu'on est quand même un bon accueil. Au niveau des hommes, ben c'est sûr que on fréquente des gens qui sont quand même aussi pro-féministes là, dans les mouvements où on est là. Fait que c'est sûr que beaucoup trouvent ça positif. C'est sûr que par contre, il reste des traces aussi de sexisme, tu sais, chez les gars qui sont dans notre entourage, puis des fois ça paraît, puis même si c'est pas volontaire, on voit que des fois ben par exemple, ah, c'est ça les filles, vous allez aller potiner ensemble aujourd'hui au lieu de dire qu'on a une réunion puis on va parler de politique, tu sais. Fait que c'est sûr que ça reste, hein, comme dans les autres mouvements d'extrême gauche aussi, là.
Puis d'un autre côté, ça suscite beaucoup de débats dans le sens où, ah, des femmes dans le milieu antifasciste, qui est un milieu assez macho, ce qu'on lui reproche, en fait. Donc, ça suscite beaucoup de débats, puis c'est assez pertinent, en fait. Fait que c'est intéressant de rencontrer des gens dans ces soirées-là, de pouvoir, de partager des points de vue, tout ça, de briser des tabous un peu.
Ben moi, j'étais curieuse de savoir si vous voyez déjà des changements à l'intérieur des groupes mixtes dans lesquels vous militez ou dans lesquels vous tenez, puis est-ce que dans le fond, votre groupe jusqu'à maintenant, ça, est-ce que ça en est des discussions une fois que vous retournez dans vos groupes mixtes, ou est-ce que, là, je te parlais un peu qu'il y a quand même eu quelques réactions peut-être moins positives, est-ce que vous voyez des changements? Je ne sais pas combien de temps ça fait que vous avez votre groupe, là, c'est peut-être un petit peu prématuré de parler.
Mais ça fait seulement quelques mois, mais en fait, le changement principal, je pense qu'il vient de nous-mêmes, de notre rapport face à la situation. Je pense que je mentirais pas, en fait, si je dirais que la majorité d'entre nous sont plus à l'aise après d'aller dans nos autres groupes, de s'affirmer, de prendre notre place, de mettre notre poing sur la table, de pas attendre que les autres nous concèdent notre place, d'aller la prendre nous-mêmes. Puis je pense que ça, c'est un des points principaux. Je pense que c'est ça qu'on essaye d'aller chercher, parce que je vais pas attendre que le monde me laisse ma place dans la vie, là. Je vais aller la chercher moi-même, puis je vais prendre ma place.
Puis une autre chose aussi que ça nous a fait réaliser, en fait, notre action politique, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait encore peut-être plus de problèmes que ce à quoi on s'avait imaginé, dans le sens qu'on en reparle après nous de la conférence, puis on fait « Ah, on n'avait pas vu ça, puis il y a ça aussi, puis il y a tel problème, puis telle réaction. » Fait que je pense qu'au niveau de nous, on remarque plus, je pense, l'oppression puis la domination qu'avant. Puis au niveau des autres personnes de notre entourage, si on changeait, ben pour l'instant, moi, je remarque pas vraiment de différence, mais ça fait juste quelques mois aussi qu'on existe. Fait que.
Est-ce que vous avez des activités prévues, par exemple, pour le 1er mai ou dans les mois à venir, que vous pouvez nous parler ou nous inviter?
Oui, donc à Montréal, nous allons participer à la manifestation anticapitaliste du 1er mai. Donc, ça a lieu évidemment dimanche le 1er mai à 15h, si je ne me trompe pas, au Square Berry. Sinon, nous serons présents au Salon du livre anarchiste également.
Avec notre table et notre marchandise.
Oui. Ensuite, dans quelques semaines, en fait, dans 3 semaines, sortira le cas social. C'est le fanzine du RASH, donc Red and Anarchist Skinhead, dans lequel nous avons une section. Et puis, finalement, peut-être des projets pour l'été autour de femmes et actions directes ou femmes et anticapitalisme.
Ah, excellent. Ben, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Je ne sais pas si il y avait d'autres choses que vous vouliez nous dire avant qu'on passe en musique puis qu'on finisse avec notre propre calendrier militant des choses qui vont se passer ici à Québec dans les prochaines semaines.
Ben, on voulait vous remercier de nous avoir invités puis de votre belle initiative d'Ainsi Squattel. C'est vraiment fantastique.
Excellent. Ben, en souhaitant de plus amples collaborations dans le futur, peut-être qu'on va écouter une petite chanson. Qu'est-ce que ça va être, Marie?
On le sait pas, mais on le saura au retour de la chanson.
CKIA FM, vous écoutez toujours Ainsi Squattel et c'est la portion de l'émission qui est dédiée au calendrier militant. Tiffaine, c'est toi qui nous a préparé ça cette semaine?
Oui, donc je vais juste vous rappeler rapidement quelques événements qui se passent cette semaine et dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc demain, oui c'est ça, mercredi le 27 avril à 19h au Musée de la Civilisation, il y a une conférence qui a l'air super intéressante sur la place des femmes dans les révoltes au Maghreb et au Proche-Orient. Et puis, donc je vous en avais parlé la semaine passée, je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est à 19h jusqu'à 21h30, ça coûte 5$ et c'est au Musée de la Civilisation, c'est au 85 rue d'Alousie. Donc pour plus de renseignements, vous pouvez soit envoyer un courriel au ANICOLAU, @commercialcjf.qc.ca ou encore visiter le site web cjf.qc.ca/soirée/relations au pluriel. Alors, ensuite, il y a une manifestation 28 avril, donc ce jeudi, de midi à 13h, qui est organisée par le Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, le RAIC, et la Ligue des droits et libertés, section Québec. Et puis, donc, pendant la manif, auquel vous êtes invités en grand nombre, les personnes qui sont là remettront des contraventions, aux passants et aux passantes et aux automobilisés, aux automobilistes pour dénoncer le profilage social et la judiciarisation des personnes marginalisées. Donc, vous avez rendez-vous sur le coin Saint-Jean et Honoré-Mercier à 12h midi. Donc, pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le site web de la Ligue des droits et libertés. Ensuite, le gros événement qui se passe cette semaine, c'est évidemment le 1er mai, la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Et si vous n'êtes pas à Montréal avec les filles du Montréal Sisterhood, on vous invite à vous joindre aux groupes qui vont être à Québec, donc le REPAC 0312. À partir de 11h30, il va y avoir une école dans la rue sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste. Donc, pendant cet événement-là, vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur la hausse des tarifs dans les services publics, l'instauration des frais en santé, l'augmentation des frais de scolarité universitaire, les augmentations de tarifs à Hydro-Québec. Donc, plein de choix du gouvernement provincial qui nous appauvrissent toutes et tous, sauf si vous faites partie des plus riches. Donc, c'est à partir de 11h30, pardon. Il va y avoir un atelier de pancartes qui devrait être fort sympathique, de l'éducation populaire, du théâtre et plein d'autres choses comme ça, et même une soupe populaire. Ensuite, à partir de 13h, toujours sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste, il va y avoir le départ de la marche qui est organisée par la coalition régionale opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Donc, ce groupe-là va rejoindre les gens du REPAC et puis la manif va donc partir du 480 rue Saint-Jean et se diriger vers des lieux de pouvoir intéressants où vous serez invité à poser quelques petites actions si le cœur vous en dit. Et puis ensuite, donc après la manif, vous êtes invité au traditionnel cabaret du 1er mai. Alors, de 17h à 19h, à la page noire, il y a un petit goûter espagnol. Je ne sais pas si ça fait référence à quelque chose de particulier ou si ça sera seulement un goûter à saveur espagnole. On le saura dimanche dès 17h. Et puis ensuite, il va y avoir plusieurs prestations super intéressantes à la JT. Donc, rapidement, il y a des chants de premier du mois, une présentation de Denis Bolduc du Syndicat du Journal de Québec, Étienne Grandmont en duo qui va faire des chansons ouvrières, du gumboot, Marie-Ève Rancourt de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, Filon d'or, hip-hop engagé, Rigali, le magicien anticapitaliste. Moi, je ne manquerai pas ça.
Moi, je l'adore.
Ensuite, Naomi Buchart, je ne sais pas comment prononcer son nom malheureusement, qui fait du folk et du bluegrass. Ensuite, Micro Armé, du hip-hop sans frontières. Et finalement, DJ Jean-Philippe. Et le tout sera au profit de la Page Noire, la librairie sociale autogérée. C'est 5$ à l'entrée, mais c'est bien mentionné que si vous êtes cassé, vous rentrez pareil.
Excellent, dans la bonne tradition du 1er mai. Moi, j'avais deux autres petites activités, en fait, mais qui sont pour la semaine suivante. C'est le vendredi 7 mai. On a un calendrier bien rempli. D'abord, en 5 à 7, à l'AJT, c'est le lancement du premier recueil de nouvelles anarchistes au monde. C'est comme ça que Subversion est distribué. Donc, c'est un recueil de nouvelles anarchistes qui va être lancé, donc, le samedi 7 mai à l'AJT, 251 rue Dorchester, donc à 17h. L'entrée est gratuite, puis il va y avoir des performances des artistes et des lectures. Ça, c'est organisé par le Bloc des auteurs anarchistes, The Anarchist Book Bloc, ça sonne meilleur en anglais, je trouve, qui inclut notamment un artiste que j'aime beaucoup et dont j'aurai l'occasion de vous reparler, Norman Naraki. Et en fin de soirée, donc à partir de 8h, on traverse à la Page Noire pour une projection de film du controversé film End Civ, qui est un film sur le mouvement anti-civilisationnel, un film qui est extrêmement critique envers le mouvement écologiste tel qu'on le connaît, un film qui est critique envers la non-violence, un film qui est très controversé, qui suscite des débats partout où il passe, et on va avoir la chance d'avoir le réalisateur Franklin Lopez en personne pour en discuter avec lui. Donc tout ça le samedi 7 mai, en première partie à l'AJT et en deuxième partie à la Page Noire juste à côté. Je vous en reparle la semaine prochaine. Donc, c'est pas mal ça qu'on avait pour notre petit calendrier.
Merci beaucoup, Evelyne. Est-ce qu'on se termine, on termine ça en musique, alors?
Ben, je pense que ça va déjà pas mal mettre fin à notre émission. Je pense que vous pouvez nous écrire, en fait, je vais rappeler nos coordonnées, courriels qui sont ase@resist.ca. Vous pouvez nous visiter en ligne aussi sur le site web insisquattel au pluriel avec des traits d'union.org. Nos émissions sont placées là en podcast si vous voulez nous réécouter. Vous pouvez nous écouter en direct le mardi à 19h ou le mercredi à 14h sur les ondes de CKIA FM ou sur son site web. Et la semaine prochaine, on aura la chance d'avoir peut-être justement une petite performance du réalisateur du film NCIF qui va être de passage à Québec. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci aux filles du Montreal Sisterhood. Si vous nous écoutez en direct, courez à l'AJD pour assister à leur conférence où elles pourront parler plus longuement de leur projet et aussi prendre vos questions et discuter avec vous. Donc, voilà, c'est restez à l'écoute si vous nous écoutez en direct pour Cultivons notre hip-hop qui suit immédiatement. Et à la semaine prochaine!
Salut!